C'est un gros matin de sport parce qu'on va parler évidemment de tennis, aussi du Canadien qui se trouve comme, en tout cas ce matin...
Va pas très bien.
Non, fait pas partie des séries, mais on avait déjà un rendez-vous téléphonique avec Georges St-Pierre.
Oui, qui a annoncé il y a quelques jours qu'il mettait un terme à sa carrière de combattant. On va aller le retrouver tout de suite au téléphone. Georges St-Pierre, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Ça fait déjà quelques jours, Georges St-Pierre, que vous avez annoncé votre retraite. Toujours à l'aise avec la décision?
Oh, très, très à l'aise. Merci.
Parce qu'on a eu l'impression que, lors du moment où vous l'avez annoncé, que s'il y avait eu ce combat avec Khabib, peut-être que vous auriez poursuivi encore un peu.
Ah, c'est certain. S'il y avait eu le combat avec Khabib, je l'aurais fait. Je serais pas ici en train de vous parler de ma retraite. Je serais sûrement ici en train de vous parler de mon prochain combat. Mais malheureusement... On a dit à l'UFC que si ils acceptaient pas, ben on prenait la retraite. Peut-être que l'UFC pensait que je faisais un bluff, mais bon, ça s'est pas passé comme on le voulait, mais c'est sûrement une bonne chose aussi.
Mais est-ce que à ce moment-là, on peut dire que ce sont davantage les événements qu'une volonté réelle de prendre votre retraite qui vous a amené là?
En fait, c'est que dans un sport comme dans lequel j'évolue, moi, ça fait plusieurs années que je fais ça. J'ai 37 ans maintenant. J'ai été champion plusieurs fois. Donc, pour rester au top, il faut garder la motivation très haute. Je n'étais pas intéressé à retourner me battre. C'était pour affronter un autre contender qui est une fiche normale, qui n'est pas un adversaire spécial. Khabib, la raison pour laquelle ça m'excitait, c'est que c'est un adversaire qui vient de la Russie. C'est un Daghestanais, un pays qui vient de la guerre et tout. Le mec n'a jamais perdu. Il a une aura d'invincibilité. Il est reconnu comme étant le meilleur combattant, probablement. Un des meilleurs livre pour livre dans le sport en ce moment. Donc, tout ça mis ensemble, c'est la chose qui m'excitait le plus, mais c'est aussi la chose la plus épeurante. Et c'est ça que ça me prenait pour revenir. Sinon, si c'est pour revenir puis me battre contre un autre contender, un autre jeune qui n'a pas encore une plateforme connue ou qui... Parce que tout le monde est dangereux, c'est un risque qui n'en valait pas la chandelle pour moi, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la retraite.
OK, on a l'impression de l'extérieur, là, puis vous me direz si ça a du sens ou pas, là, c'est que depuis votre retour, c'est comme si, après avoir été la figure de l'UFC, on avait de la misère à vous céder de la place, à vous reconnaître ce que vous avez fait, bref, à vous remettre un peu sur les premières places et à vous offrir des combats moins intéressants.
Mais c'est parce que le sport change aussi maintenant. C'est un peu l'ère de Conor McGregor. Hein. Tout le monde parle beaucoup. On dirait que ça a changé depuis que j'ai fait mon retour. J'avais combattu ça a pris 4 ans avant que je revienne pour faire le combat contre Michael Bisping. Maintenant, ça a beaucoup changé. C'est beaucoup la promotion qui a changé. Avant, c'était vraiment les combattants étaient jugés par rapport à leur classement. Si t'étais numéro un, ben t'avais un title shot, t'avais une chance pour le titre. Maintenant, c'est plus ça, on dirait que c'est rendu celui qui est capable de vendre le plus, celui qui fait le plus de bruit, il va passer en avant des autres. Moi, je suis un combattant qui fait pas beaucoup de bruit, je vends beaucoup de télé à la carte, je suis un des meilleurs vendeurs, mais je reste toujours humble, je suis pas quelqu'un qui aime faire, comme on dit en anglais, du trash talk. Donc, peut-être que l'UFC aimait moins ça. Ça fait moins de drames parce que la promotion d'un combat est basée sur les drames. C'est comme ça qu'ils font une bonne promotion pour les combats. C'est un sport qui est de divertissement, puis c'est normal, c'est comprenable. Mais ça a changé, c'est vrai. Donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle que ça s'est passé de cette façon-là.
Mais en même temps, vous venez de parler de McGregor. Vous avez donné beaucoup de noblesse à ce sport-là parce que vous avez jamais été impliqué dans des incidents comme encore la semaine dernière. Je pense que McGregor a frappé un photographe là alors qu'il arrivait dans une ville.
Ouais, il a frappé le téléphone du photographe.
Okay.
Le photographe.
Vous avez jamais été impliqué dans. Vous avez donné beaucoup de noblesse.
Ça ressemble à la lutte WWF
oui.
En tout cas.
Ben, il y a eu l'histoire au Madison Square Garden là, mais vous avez toujours donné beaucoup de noblesse à ce sport-là qui est un sport extrêmement violent là.
Je suis pas parfait, j'ai fait plusieurs conneries aussi, mais c'est vrai que j'ai pas dépassé les bornes. C'est un sport que on est des athlètes de sport de combat, on a le sang chaud. Il y en a qui savent mieux se contrôler que d'autres. C'est un sport que c'est pas comme tu pourrais dire un peu comme j'aime pas faire des c'est pas bien de faire des préjugés puis tout ça, mettre tout le monde en même paquet, mais c'est un sport que souvent les athlètes grandissent un peu dans la pauvreté. Pas nécessairement la pauvreté, mais dans un environnement un peu plus difficile. T'as des sports que le tennis, le golf, c'est des sports que pour commencer à évoluer dans ce sport-là, t'as besoin d'argent, t'as besoin de vivre dans un milieu social qui est peut-être un peu plus facile. Les combats, souvent les combattants, ceux qui compétitionnent, c'est des gens qui sont issus d'un milieu social difficile. Donc, ça l'affecte aussi au niveau du comportement. C'est des gens qui ont le sang chaud. Et puis, ouais, c'est pour ça que souvent dans la boxe, dans les combats, on voit souvent des événements qui font la manchette. Et malheureusement, c'est ça. Mais j'ai toujours essayé de me comporter d'une façon raisonnable puis d'être un bon modèle pour les jeunes à suivre.
Georges Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Merci.
Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous.
Bonne journée. Bon, parlons de tennis maintenant, parce que là, le Canada, tu comprends.
Non, écoute, c'est la nouvelle au Canada aujourd'hui, là. Bianca Andreescu, qui est championne Indian Wells. Écoutez, c'est pas compliqué, là. C'est le tournoi le plus important jamais remporté par un Canadien ou une Canadienne, là, dans l'ère moderne du tennis, là, parce que je peux pas remonter là, dans les premières années de ce sport. Mais si on parle de l'ère moderne, là, c'est certainement la victoire la plus significative remportée par un athlète canadien. Pour en parler, on va aller retrouver Hélène Pelletier, analyste à RDS, qui a elle-même été longtemps sur le circuit de la WTA. Bonjour, Hélène.
Oui, bonjour, monsieur. C'est vrai que c'est super excitant.
Hélène, le match d'hier, là, d'abord, ça a été un match extraordinaire. Faut rendre hommage à Angelique Kerber également. Là, c'est pas n'importe qui, là. C'est une triple championne d'un tournoi majeur. Mais moi, ce qui m'a impressionné de Bianca Andreescu, c'est la panoplie de coups qu'elle possède. Elle peut jouer en puissance, en finesse avec des amortis au filet. On l'a vu faire des lobes à un moment donné, là, qui ont complètement décontenancé son adversaire. Elle possède à peu près tous les coups.
Oui, puis en plus, elle est extrêmement rapide, puis elle a une puissance incroyable. À un point tel que quand on regarde, juste en deux tournois, messieurs, elle a battu Wozniacki, Venus, Muguruza, Kerber, toutes des filles qui ont été numéro un mondial, toutes des filles qui ont gagné tournoi Grand Chelem. C'est absolument extraordinaire, juste ça. Et elle s'amusait en conférence de presse après sa belle victoire hier à raconter « L'année dernière, j'étais décontenancée, j'ai été blessée, je ne savais plus où donner de la tête, j'étais déprimée. » Et aujourd'hui, je gagne Indian Wells. Une bourse de 1 350 000 $, c'est un rêve. Et elle est encore une toute petite fille de 18 ans. Et ce qui a été fantastique, puis ça, évidemment, au cours de la prochaine année, avec son coach Sylvain Bruneau, il va falloir travailler là-dessus aussi. Il va falloir trouver des solutions parce qu'elle est souvent dans la grande douleur. Et c'est parce que elle a une force de caractère extraordinaire qu'elle est capable de passer à travers ses matchs. On se souviendra qu'à Auckland, justement, en finale, elle avait eu des balles de match pour remporter ce tournoi-là après avoir battu, notamment, comme je vous ai dit, Wozniacki et Venus Williams. Et elle est toujours en douleur parce que elle a tellement un tennis haut de gamme, un tennis top 10. Là, il faut que le corps suive également.
Mais là, j'ai une question pour toi, Hélène. Oui. Là, on vient de décrire là, son talent, là, sa capacité physique, ses atouts. Entre les deux oreilles, qu'est-ce que tu sais? Parce que, tu sais, là, elle va devenir, elle va être 24e, tu disais, Alain? Là.
Oui.
Puis là, la première grosse bourse, elle devient le centre d'intérêt. Qu'est-ce que tu sais sur, disons, sa capacité à subir ce type de pression-là?
Excellente idée, parce qu'on est un petit peu, on se souvient très bien de ce qui s'est passé avec Eugénie Bouchard après son année fantastique en 2014. Alors, c'est sûr que là, maintenant, les joueuses et tous les meilleurs coachs au monde vont étudier son jeu. On va essayer de trouver des failles. Et puis, il va falloir maintenant qu'elle soit capable de vivre avec le fait que le premier ministre du Canada lui envoie des petits tweets puis des textos. Elle devient la vedette au pays, évidemment, une vedette sur le circuit international aussi. Ça fait longtemps qu'on pousse Bianca comme on pousse Félix Auger-Aliassime aussi du côté des hommes. Alors, il va falloir qu'elle soit forte. La bonne nouvelle, c'est qu'elle vient d'une famille, ils sont arrivés de la Roumanie. Elle est née en Ontario, à Mississauga, puis par la suite, la famille est retournée vivre en Roumanie et on est revenu par la suite pour s'entraîner au Centre national et à Toronto et à Montréal. mais c'est une jeune dame qui est humble, c'est une jeune dame qui est d'une grande, grande gentillesse. C'est vraiment profondément une bonne personne. Ceci étant dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de vivre ce qu'elle a vécu sans changer, forcément. Là, la petite Cendrillon est devenue comme une valeur, une grande valeur établie sur le circuit. Écoutez, je sais qu'elle est bien entourée. Sylvain Bruneau aussi est celui qui l'a aidée dans ce match-là. Sans Sylvain Bruneau, qui est peut-être un des coachs les plus extraordinaires que Tennis Canada aura eu, sans oublier chez les hommes, là, les deux Français qui bien suivent, M. Marx ainsi que M. Fontan, qui suivent Félix Auger-Aliassime, la belle équipe de Louis Borfiga. Il faut pas oublier une chose, il a fait ses classes, Sylvain Bruneau. Il a vécu de proche et de loin tout ce qu'a vécu Eugénie Bouchard dans les dernières années, le super excitant et le beaucoup plus difficile. Alors, il a de l'expérience, lui aussi. Et tant que Bianca écoutera ce que lui dira Sylvain, elle va être OK. Elle va être protégée. Elle va être dans une bulle. Elle va garder, évidemment, le focus sur la tâche à accomplir. Parce que là, déjà, là, mercredi, il faut qu'elle joue à Miami, vous imaginez.
Et Miami, c'est un tournoi de la même importance qu'Indian Wells.
Exactement.
C'est un gros tournoi. Ben, oui. Merci beaucoup, Hélène. Toujours très apprécié.
Merci, bye-bye.
Bye, bonne journée. Et parlant de Sylvain Bruneau, il y a l'entraîneur de Serena Williams qui a écrit à Sylvain Bruneau, je pense que c'est sur Twitter, pour le féliciter de son travail durant le match d'hier et du pep talk qu'il a fait à sa protégée, notamment lors de la deuxième manche, quand les choses commençaient à aller moins bien pour elle. Et après ça, il est revenu pour l'emporter. Alors, quand tes collègues de travail reconnaissent ce que tu as accompli, là, ben c'est ce qui est arrivé avec Sylvain Bruneau hier.
Et le Canadien est pas en série ce matin.
Oh, le Canadien aura besoin d'un petit pep talk, là.
Oh, ça va être dur jusqu'à la fin.
Ben là, ça a l'air que la fatigue, Paul.
Bon.
C'est ce qu'on entend, il serait fatigué.
Bon. Mais on va aller à la pause, se remettre nous aussi, parce qu'on est un petit peu fatigué de faire beaucoup d'entrevues ce matin. Là. On est fatigué.